Dossier 5. Épreuve orale collective. Lisez les questions, puis cochez la bonne réponse.
Le 28 février 1821, il y a tout juste 200 ans, naissait Rachel, l'une des plus grandes actrices du 19e siècle. Car si elle est aujourd'hui méconnue, elle fut à son époque aimée, adulée, acclamée par le public en France, mais aussi à l'international où elle effectua de nombreuses tournées jusqu'en Amérique. Rachel compte dans notre histoire culturelle car elle fut l'une des premières stars de la scène française. Elle annonce un phénomène qui se déploiera tout au long du XXe siècle avec le cinéma. Nous allons explorer les raisons de ce succès avec Jean-Claude Yon, directeur d'études à l'École pratique des hautes études et spécialiste de l'histoire du spectacle. Bonjour Jean-Claude Yon.
Bonjour.
Alors pour commencer, quand on parle des actrices au XIXe siècle, on pense souvent à Sarah Bernhardt, mais on oublie Rachel. Elle la précède d'une certaine façon.
Oui, et en plus, Sarah Bernhardt a eu une vie quand même relativement longue, puisqu'elle meurt après la Première Guerre mondiale. Et puis, elle vit à une époque où les moyens, les médias se développent énormément. Alors que notre pauvre Rachel est morte toute jeune, à 37 ans. Et elle est vraiment au début de ces phénomènes de société médiatique, de starification que vous évoquiez.
Et quand on lit, quand on découvre son histoire, il y a un côté conte de fées parce que Rachel part de très bas, c'est presque une bohémienne qui connaît la gloire.
Et précisément pour faire d'elle une star, elle a tous les éléments qu'il faut, à savoir effectivement elle appartient à une famille de colporteurs, elle naît en Suisse et elle arrive enfant simplement en France et à Paris et elle appartient à un milieu très très modeste. Elle aura d'ailleurs toujours autour d'elle sa famille qui va se consacrer entièrement au théâtre et avec un père qui cherche surtout à faire de l'argent. Et comme c'est une famille juive, ça renforce tous les préjugés qu'on peut avoir sur les juifs dans le monde du spectacle, qui sont présents dans les mentalités au XIXe siècle. Donc elle part de rien et puis elle va être révélée très rapidement comme par un coup de baguette magique. Elle va en plus non pas se consacrer au théâtre de ses contemporains. Elle ne joue pas du Hugo, enfin elle en jouera un peu, mais elle ne joue pas du drame romantique. Mais elle ressuscite ce genre qui est la tragédie. Et donc, elle est comme une fée qui arrive à la Comédie-Française et qui ressuscite Corneille, Racine, Voltaire. N'oublions pas que Voltaire est considéré encore au XIXe siècle comme un grand auteur théâtral. Et elle a un nombre d'amants invraisemblable. Elle a donc une mort de la tuberculose toute jeune, des tournées à foison, vous l'avez dit. Donc, elle a tous les éléments qui font d'elle, j'allais presque dire, une sorte de Marilyn Monroe du XIXe siècle.
Et qui la repère, qui la révèle au tout début de sa carrière ?
Alors, elle a aussi donc, elle incarne, et là on est tout à fait en phase avec l'époque et l'esprit romantique, elle incarne en quelque sorte le génie brut, puisqu'effectivement, au départ, elle ne sait même pas lire et écrire, elle est sans éducation, mais elle s'empare du répertoire qu'on lui donne avec une énergie, une noblesse absolument extraordinaire. Donc, au départ, en fait, elle est repérée par des gens de théâtre, elle passe dans un cours, d'abord d'ailleurs un cours de chant, mais finalement, c'est pas une chanteuse, c'est beaucoup plus une actrice. Et puis il y a un personnage central qui s'appelle Samson, qui était vraiment un grand acteur du 19e siècle, qui la repère, qui la fait rentrer au conservatoire et puis aussi surtout à la Comédie Française en 1838. Donc elle est toute jeune, elle a 17 ans. Et là, sa façon d'interpréter Corneille, Racine, Voltaire est une véritable révélation notamment pour la critique et notamment pour le grand critique Jules Janin qui était tout puissant, qui la lance. Un petit peu comme de nos jours, on pourrait lancer une nouvelle actrice à travers une série télé ou un film. Et donc tout de suite, c'est un phénomène et toute sa vie, elle restera une sorte d'attraction, ce phénomène qui attire les foules aussi bien en France qu'à l'étranger.
Vous dites que son répertoire est le répertoire classique plus que le courant romantique. Mais quelque part, une actrice, est-ce que c'est elle qui choisit ses pièces ? Elle est célèbre à ce point-là de pouvoir se donner ce luxe d'accepter telle ou telle pièce ?
Alors tout de suite, comme elle a beaucoup de succès, elle va avoir cette toute-puissance qui fait partie de la star. Elle a d'ailleurs aussi un autre attribut évident de la star qui est de gagner beaucoup d'argent, puisqu'elle demande énormément d'argent à la Comédie-Française, avec qui elle a des rapports assez compliqués, mais elle impose ses choix, elle choisit presque les directeurs, elle démissionnera trois fois de la Comédie-Française. française pour faire du chantage par rapport à cette société qui, vous le savez, est gérée en partie par les sociétaires, par les autres comédiens, avec des phénomènes de jalousie. La jalousie est très développée à la Comédie française. Je parle bien sûr du 19e siècle, pas de nos jours. Mais effectivement, donc elle est toute puissante et elle choisit ce type de répertoire. Alors après, se pose la question, beaucoup d'auteurs veulent écrire pour elle, mais qu'est-ce qu'on peut lui faire interpréter? Est-ce qu'on peut la faire parler en prose? Puisqu'avant tout, c'est quelqu'un qui interprète du répertoire en vers. Et notamment, j'en parle parce que c'est une pièce que certains de nos auditeurs doivent connaître. En 1849, Eugène Scribe, qui est vraiment le grand auteur, non pas romantique, mais vraiment le grand auteur dramatique du 19e siècle, avec son collaborateur Le Gouvet, vont avoir l'idée géniale de lui faire interpréter le rôle d'Adrienne le Couvreur, c'est-à-dire d'une autre grande tragédienne du 18e siècle. Donc il va y avoir une espèce de phénomène de théâtre dans le théâtre. Elle va jouer une autre tragédienne et elle va réciter le répertoire que jouait Adrienne le Couvreur, tout en montrant les coulisses de la vie théâtrale. Et cette pièce, qui deviendra aussi bien plus tard un opéra et qui a été reprise par Sarah Bernhardt, Adrienne le Couvreur, est vraiment une façon très habile de la part de Scribe de lui faire jouer une pièce contemporaine, mais en la remettant dans les habits d'une ancienne tragédienne.
Et que peut-on dire de son jeu? Qu'est-ce qui frappe les contemporains quand elle interprète un rôle?
Alors déjà, elle a, et là aussi ça participe de son mythe, parce qu'on peut vraiment parler d'un mythe de Rachel, elle a une noblesse innée qui est d'autant plus extraordinaire que, comme on l'a dit, elle sort de la rue. En fait, quand elle était gamine, elle allait mendier ou vendre des oranges dans les cafés à Lyon. Enfin, vraiment, elle sort d'un milieu très, très modeste. Mais elle a cette façon de se mouvoir, une façon de porter le costume aussi avec une élégance extraordinaire. Et elle sera aussi importante pour l'histoire de la mode. Donc, elle a déjà cette présence extraordinaire. Elle n'est pas spécialement belle. Elle est un peu petite, maigre, mais elle a un charisme extraordinaire d'une part, et puis elle a une voix, une sorte de voix de contralto qui est absolument extraordinaire, et une façon de prononcer les vers qui n'est pas une façon, j'allais dire, académique ou traditionnelle, puisque ce qui l'emporte, c'est vraiment chez elle le sens. Donc d'une certaine façon, elle récite la tragédie classique comme le drame romantique. Et donc, elle ne joue pas les auteurs romantiques, mais elle intègre toute la modernité du répertoire romantique dans sa façon de jouer Corneille ou Racine. Et de ce point de vue-là, c'est une véritable révolution. D'ailleurs, dans certaines pièces, on ne joue que les actes où on ne représente que les actes où elle est présente, parce que dès qu'elle sort de scène, le public commence à s'ennuyer. Il y a vraiment cette présence extraordinaire, de la même façon qu'au XXe siècle, des acteurs, des actrices sauront capter la caméra. Elle sait capter l'intérêt du public.
Comment le public manifeste-t-il son intérêt pour Rachel? Est-ce qu'il s'intéresse aux détails de sa vie? Est-ce qu'il essaie d'imiter ses tenues? Vous parliez de la mode tout à l'heure.
Alors, elle est l'objet d'une attention universelle et notamment, comme elle a une vie privée très compliquée avec un très grand nombre d'amants, bien sûr sa vie privée intéresse énormément les journalistes et elle est traquée, il n'y a pas encore de paparazzi, mais elle est traquée par la presse. Le public, lorsqu'elle fait des tournées, vient l'attendre à la sortie du théâtre. Alors c'est pas la seule, mais on dételle les chevaux de sa voiture pour tirer sa voiture, la ramener à son hôtel. Donc il y a vraiment une ferveur extraordinaire qu'on pourrait retrouver d'ailleurs de nos jours plutôt à l'égard de stars de rock ou de grands footballeurs dans certains stades, parce qu'en fait les théâtres au 19e siècle, c'est beaucoup plus l'ambiance d'un stade de foot actuel que d'une salle de théâtre bien polissée comme on en connaît à notre époque. Donc il y a cette adulation qui va même jusque à un élément intéressant lorsqu'elle meurt, donc en 1858, on va prendre de façon indue, parce que la photo s'est développée, des photos d'elle sur son lit de mort, et on va chercher à les monnayer. Donc on a déjà ces phénomènes qu'on pourrait avoir au moment de la mort de Claude François ou de Johnny Hallyday ou je ne sais quelle vedette actuelle, où on va dérober l'image de Rachel sur son lit de mort.
Cette mort très jeune participe au mythe Rachel.
Ah, complètement. Et Rachel, c'est un peu James Dean. On n'imagine pas un James Dean ancien, vieux, âgé. On n'imagine pas une Rachel. Et de ce point de vue-là, vous parliez tout à l'heure du parallèle qu'il faut faire absolument avec Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt, elle a su gérer la vieillesse. Mais Rachel ne pouvait être qu'une, et ça participe encore de son mythe, qu'une espèce d'éclair de génie qui dure quelques années et puis qui soudain s'arrête et s'éteint.